L'art contemporain au musée de la chasse et la nature. D'abord, je vous demanderai d'être un peu indulgent, mais je pense que l'heure digestive vous y incite, pour une expérience qui est somme toute modeste, puisque le musée de la chasse et la nature n'est pas avant tout un musée d'art contemporain, et je ne suis pas moi-même un spécialiste de cette discipline, puisque je suis plutôt proche des monuments historiques, ayant exercé la fonction d'inspecteur des monuments historiques pendant une bonne partie de ma carrière. Mais enfin, à sa modeste échelle, l'expérience du musée de la chasse et de la nature tente donc l'expérience de l'insertion d'œuvres contemporaines dans une collection déjà existante. Alors, je voudrais d'abord insister sur les raisons qui ont motivé cette ouverture d'un musée plutôt traditionnel à l'art contemporain. Le musée a été fondé par un mécène et créé et ouvert en 1967. Le mécène, c'est François Sommer. François Sommer voulait témoigner de ce que la chasse avait apporté aux civilisations à travers sa propre collection. Et il voulait à la fois concilier une approche pédagogique sur l'histoire de la chasse avec une approche plus décorative, puisqu'il s'agissait de réhabiliter un hôtel du Marais prestigieux, l'hôtel Guénégaud, qui avait été mis à disposition de ce nouveau musée par la ville de Paris. Donc il conciliait à la fois cette approche didactique et cette apparence un peu volontairement décorative. Le mode de fonctionnement du musée est assez atypique par rapport à la plupart des musées parisiens, puisque c'est un musée privé, même s'il est abrité en partie dans un édifice qui appartient à la ville de Paris, et même si une partie des collections sont des dépôts de l'État ou d'autres grandes institutions, le mode de fonctionnement est complètement privé et repose sur un financement qui est entièrement fait grâce à la dotation du fondateur. Donc depuis son ouverture en 1967, et après les quelques années de relative prospérité du musée, de succès auprès du public, celui-ci va décliner pour des raisons assez compréhensibles, puisqu'on a affaire à une thématique qui est jugée par le public très austère, un public qui est de plus en plus fréquemment hostile, ou en tout cas à la chasse, ou en tout cas qui ne comprend pas très bien, qui s'étant éloigné de ses racines rurales, donc un problème avec ce thème. Et finalement, malgré la richesse assez exceptionnelle des collections artistiques sur l'art animalier français du XVIIIe, par exemple, on se trouve à la fin, au début des années 2000, avec une fréquentation extrêmement minime. C'est un musée confidentiel, avec un public qui est essentiellement donc composé de gens très intéressés par cette thématique extrêmement pointue. Donc, il y a une nécessité d'ouvrir le musée et de faire en sorte qu'il passe pour ce qu'il est en réalité, donc non seulement un musée de société, mais aussi un musée d'art. Alors, cela va être possible grâce à l'acquisition faite par la Fondation de l'hôtel mitoyen de l'hôtel de Guénégaud, qui est l'hôtel de Montgelas, acquisition qui va être faite en 2002 et qui va être le prélude à une réorganisation complète tant des collections que de la muséographie. Alors, pour cette réorganisation que j'ai conduite, j'étais bien conscient de l'intérêt de présenter de l'art contemporain. En effet, moi, mon premier contact avec le musée, quand j'en ai pris la direction en 1998, a été une sorte d'hésitation entre la consternation et l'émerveillement. Je pense que cette photo en rend bien compte. C'est en fait l'état des collections, la muséographie telle que j'ai trouvée en 1998. Il s'agit ici de la présentation d'origine, la salle dite d'Amérique, où le fondateur, dans une approche un peu à la Bouvard et Pécuchet, avait voulu résumer tout ce qu'on pouvait dire sur la chasse avec un mélange d'animaux naturalisés des deux continents sud-américains et nord-américains, à travers quelques armes de chasse, le colt de David Crockett, et puis, puisqu'il fallait illustrer aussi la thématique de l'art animalier, quelques poteries précolombiennes. Et en fait, dans son esprit, l'essentiel était dit. Donc, cette espèce d'approche, qui était évidemment un peu dérisoire, mais en fait qui était également assez savoureuse, pouvait être vue comme une sorte d'installation d'art contemporain. Et effectivement, ma visite de certains musées en Europe consacrés à ce thème a confirmé cette possibilité justement d'une approche un peu particulière. Donc ça, voilà en fait pour cette première approche du musée. J'avais un alibi, en fait, pour prôner l'ouverture à l'art contemporain. Et il se trouve que dans la muséographie initiale, François Sommer, donc le fondateur, qui s'était beaucoup impliqué, avait souhaité qu'il y ait quelques œuvres de son temps. Et donc, voici un vestige dans la nouvelle muséographie. C'est un plafond peint par Bernard Lorjoux en 1967. Donc il y avait justement cette présence de l'art contemporain à l'époque, de l'art de son temps en tout cas, à titre d'accompagnement décoratif. Alors, ce plafond a été pour moi en fait un atout précieux parce que ça m'a permis de plaider auprès du conseil d'administration l'intérêt, la justification de poursuivre ce que le fondateur avait fait. Donc, pour cette rénovation, j'ai eu un cahier des charges très précis de la part du conseil d'administration qui souhaitait que je respecte le caractère de musée-maison, donc, ce qui effectivement vous rapproche un petit peu de votre thème général sur les monuments historiques, puisque donc, je me suis appliqué à restituer le caractère justement d'une collection d'amateurs comme on pouvait en voir au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Donc, voici deux aperçus en fait, de la muséographie contemporaine telle qu'elle elle apparaît depuis la réouverture en 2007. Et vous voyez que dans ce cadre très chargé, apparemment, il y a peu de place pour l'art contemporain. Mais c'est justement toute la problématique d'arriver à insérer quelques œuvres dans ce parcours qui est déjà très chargé. Alors, indépendamment de cette restructuration, de cette nouvelle scénographie, il y a eu aussi une remise à plat du propos soutenu par le musée et qui consistait plutôt à avoir une approche écuménique sur ce sujet un petit peu difficile de la justification de la charge. Et donc, il y a un positionnement qui est plus anthropologique à travers la mise en place des œuvres. J'ai voulu illustrer en fait, l'évolution du rapport de l'homme à l'animal, rapport qui autorise ou qui interdit cet exercice de la violence vis-à-vis de l'animal. Et en fait, il était évidemment difficile d'aborder ce rapport de l'homme à l'animal dans la société contemporaine avec uniquement des œuvres du XVIIIe siècle. Donc c'était aussi une raison pour ouvrir les collections à des œuvres de notre temps qui témoignent justement de ce nouveau statut de l'animal dans la société contemporaine. Donc en fait, j'avais ces deux justifications, à la fois le précédent de la muséographie d'origine qui avait permis d'obtenir une espèce de quitus pour faire un accompagnement décoratif des collections avec des œuvres d'art contemporain, et puis cette nécessité d'illustrer quelques parties du propos. Alors, ce sont en fait deux fonctions en quelque sorte de l'art contemporain, une fonction je dirais, décorative, une fonction illustrative, qui sont bien sûr très présentes dans toute l'histoire de l'art, même si on ne peut évidemment pas limiter les œuvres d'art à ces deux missions, qu'elles dépassent très largement. Mais en tout cas, ce sont, me semble-t-il, deux fonctions qui sont peu présentes dans l'art contemporain et dans lesquelles justement les créateurs se sentent assez mal à l'aise. Et j'ai pu en juger à travers certains contacts que j'ai eus au début du chantier, où j'ai vu un certain nombre d'artistes botter en touche, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas se sentir cantonnés justement à cette mission décorative ou illustrative. Néanmoins, j'ai réussi à accrocher quelques wagons au train. Donc là, je vous donne un exemple. C'est une œuvre de Patrick Van Kakenberg qui vient dans le parcours, justement, alors on peut dire à titre illustratif, bien sûr, ça n'est pas que ça, mais pour montrer l'état, enfin, l'évolution du rapport homme-animal depuis les découvertes scientifiques du XIXe siècle, Darwin, Freud, etc. Alors, donc, vous voyez tout de suite en fait, la difficulté d'insérer une œuvre de ce type dans le contexte très raffiné, très complet en fait, sur le plan décoratif des salons que je vous ai présentés auparavant. Donc il y a un réel problème de cohabitation auquel j'ai été confronté. Mais par ailleurs, à travers la muséographie, j'ai voulu développer une approche qui était peut-être plus conforme, plus compatible avec la sensibilité des artistes contemporains, parce que j'ai en quelque sorte voulu intégrer une forme de subversion de l'institution elle-même. Alors bon, ça, donc, la subversion, comme vous savez, est très présente dans l'art contemporain. L'idée était d'amener à travers la présentation des œuvres, à travers la nature des œuvres elles-mêmes, distiller une sorte de sentiment d'étrangeté, à faire en sorte que le visiteur fasse une expérience de dépaysement, qu'il ne sache plus très bien où il était, s'il était du lard ou du cochon, avec un musée sur la chasse ou autre chose. Et en fait, la perspective générale, c'était en fait, d'essayer de transposer à travers l'organisation muséographique ce que peut être une forme d'expérience de la nature quand, quittant les sentiers battus, vous pouvez aller vous promener seul en forêt et que vous arrivez dans un territoire qui est un territoire qui vous est étranger et dans lequel vous ne savez pas si vous êtes observateur ou observé par la présence de l'animal sauvage. Donc ça, c'était, si vous voulez, en quelque sorte le fil directeur pour l'insertion du travail des artistes contemporains. Alors, donc, ce que je cherchais à travers ces insertions, ces interventions d'artistes, c'était d'amener le visiteur à rester en permanence sur ses gardes, à être en quelque sorte aux aguets, ne sachant pas exactement ce qu'il voit, comment l'apercevoir. Et donc une des façons les plus simples d'obtenir cette espèce de dépaysement du visiteur était d'infiltrer les collections traditionnelles par des œuvres qui ont une certaine familiarité, mais qui sont différentes. Ici, par exemple, il s'agit d'une terrine qui présente des terrines du XVIIIe siècle, de la Compagnie des Indes ou d'autres manufactures européennes, parmi lesquelles vous voyez en haut à gauche un objet contemporain de Vicky Somers qui est également sur le même principe zoomorphique. Donc j'ai distillé comme ça dans le parcours des espèces de petits dérapages. Alors, je parlais en fait de l'apport des artistes au titre de complément décoratif aux collections. Les artistes que j'ai approchés, on leur a demandé de travailler, de respecter une sorte de règle du jeu et de contribuer à donner en quelque sorte un climat émotionnel à chaque salle, puisqu'il s'agissait de faire justement un lieu étrange, un lieu un petit peu dépaysant. Alors, ça a été le cas, par exemple, de Sinclair Semain, à qui on a demandé de travailler à la fois sur l'idée du mimétisme entre l'animal et son milieu naturel, et qui a en fait constitué toute une œuvre sculptée, mais aussi des œuvres d'accompagnement, comme c'est les luminaires, les mains courantes, etc., en travaillant sur cette idée de quelque chose qui est mi-végétal, mi-animal. C'est également le travail de Yann Fabre ici, à qui on a demandé ce plafond pour un petit cabinet dans lequel sont insérés deux tableaux de Rubens. Ça a été une collaboration très intéressante parce que là, en l'occurrence, il s'agissait à la fois de respecter un cahier des charges très, très précis sur les œuvres qu'on allait présenter, mais également sur les matériaux avec lesquels on allait travailler, puisque je souhaitais à la fois cette couleur, cette matière. Il s'agit d'un velours de soie. Et en fait, Yann Fabre, après plusieurs propositions, a fait justement ce plafond qu'il appelle le ciel des hiboux et qui est quelque chose qui contribue justement au caractère insolite, un peu étrange, à la limite un peu menaçant dans la visite du musée. Ici, par exemple, dans cette salle consacrée aux cerfs et aux loups, on a demandé à Franck Evenou de faire une œuvre lumineuse permettant d'évoquer le caractère ambivalent de la forêt avec un côté mystérieux négatif et un côté mystérieux positif, puisque c'est à la fois la forêt des sorcières et la forêt des fées ou la forêt de Saint-Hubert. Donc à chaque fois, en fait, il y avait un cahier des charges très, très précis pour amener l'œuvre à s'insérer dans un décor qui était en cours d'élaboration, mais qui était assez précisément défini. Alors, ça peut aller à l'extrême. Par exemple, ça, c'est une œuvre commandée à Elmar Trinkwalder qui était faite pour cette pièce consacrée aux chiens. Et à l'origine, je souhaitais avoir quelque chose qui permette d'évoquer une niche à chiens contemporaine. Et j'ai demandé à Elmar Trinkwalder de travailler en partant d'un poêle en faïence que vous verrez dans une autre image, qui est un poêle en faïence de Strasbourg du XVIIIe, dont il devait en fait reprendre la matière, la couleur. Alors, bon, bien sûr, on ne peut pas complètement brider l'artiste. Et en guise de niche, j'ai vu arriver quelque chose qui s'apparente plutôt à un monument Khmer. On le présente comme étant le monument aux chiens inconnus dans le musée. Alors, voici précisément le poêle en faïence qui est dans la même salle. Alors, le principe d'accrochage des œuvres consiste à montrer comment le statut de l'animal est en perpétuel renouvellement en fait, dans l'imaginaire des gens. en fonction des époques, en fonction de la culture. Et ce principe donc, amène à confronter des œuvres de différentes époques. Donc là, par exemple, vous avez dans le musée une œuvre assez célèbre qui est le tableau d'Oudry, le tableau ovale qui est au-dessus du poêle, qui a été présenté en 1753, dont Diderot a parlé, qui marque vraiment un moment de transformation de la sensibilité vis-à-vis de la nature, puisque l'animal y est présenté comme un animal bon. Exemplaire, et donc on a choisi de faire cohabiter avec une œuvre d'édition de Jeff Koons, qui est le Poupie, qui est présenté en bas, qui montre donc la version kitsch et quasi manufacturée du chien dans la société contemporaine. Voici donc, dans une autre salle qui est consacrée aux sangliers. Vous voyez sur le mur de gauche, en dessous d'un bas-relief antique qui est déposé par le Louvre, une œuvre de Miguel Barceló qui est également consacrée au sanglier cochon. En fait, ça m'amène à insister sur un aspect en fait, assez particulier de la façon dont on a mis les œuvres d'art contemporain en scène. On les a complètement intégrées. Elles sont mises sur le même plan que les autres œuvres. Il n'y a pas ici cette sorte de mise à distance esthétique ou intellectuelle qu'on voit parfois, qu'on voit à Versailles par exemple dans l'expression de l'exposition sur Murakami, où en fait on a réintégré des socles blancs qui en fait ramènent l'univers de la galerie d'art contemporain avec sa simèse claire dans le contexte. Donc ici volontairement rien ne signale le fait que c'était une œuvre qui n'est pas contemporaine du bas-relief. D'autant plus que, volontairement, j'ai voulu éloigner tout ce qui était élément de signalétique pour que le visiteur soit en fait confronté à des œuvres, à des formes, et se fasse son opinion personnellement, apprécie s'il trouve ça beau ou laid, ou intéressant ou non, avant de savoir ce que c'est. Et je pense que c'est de nature à désamorcer certains comportements de rejet des visiteurs vis-à-vis d'œuvres qui lui paraissent concurrencer les installations, les expositions dans lesquelles on les insère. Donc, je parlais en fait tout à l'heure d'infiltration. Il y a tout un jeu dans le musée qui en fait consiste à détourner les collections scientifiques avec justement des petites insertions d'art contemporain qui amènent en fait le visiteur à se demander ce qu'il voit, si finalement les autres spécimens naturalistes ici sont bons ou n'ont pas été aussi transformés par une quelconque intervention artistique, qui en fait je pense est de nature à susciter leur imagination et une approche plus émotionnelle des collections que strictement de l'ordre de la connaissance. Donc voici ici dans la salle dite des oiseaux, il y a plus d'un intrus puisque il y a cet ours blanc qui participe justement aux espèces de dérapages constants dans la muséographie. Mais vous voyez accroché au mur une œuvre de Rebecca Horn qui, parmi les peintures du XVIIIe siècle, de François Desportes ou de Peter Boulle, vient témoigner en fait du mouvement de l'oiseau, alors que l'œuvre qui est au centre, qui est de Vincent Dubourg, vient en fait ici évoquer le territoire de l'oiseau. Donc dans une espèce de cohabitation on peut surprendre, mais donc, toutes ces œuvres sont faites et sont vraiment conçues pour le contexte. Donc, un domaine dans lequel on a fait intervenir particulièrement les artistes d'art contemporain, c'est le cabinet dit de la licorne, qui lui-même déjà est une espèce d'incongruité, puisque la licorne est présentée dans le musée comme étant un animal existant vraiment, et pour lequel on a réuni, comme pour les autres animaux, tous les témoins de son existence. Donc c'était l'occasion de constituer une sorte de cabinet de curiosité contemporain, où sont associées des curiosités naturelles prêtées par le Muséum d'Histoire Naturelle ou par l'École Vétérinaire de Maison Alfort, et des œuvres d'art contemporain. Alors là, vous voyez dans ce cabinet un flacon en bas du collectif Gélatine qui présente un ours en pluche éviscéré dans une bouteille de formol et qui voisine à côté d'objets orfèvrerie d'Augsbourg du XVIIe siècle ou spécimens naturalistes Vous voyez également donc, sur l'étagère en haut un bézoar qui est donc, un réel donc, objet de naturaliste qui nous a été prêté par l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Et j'ai demandé à Jean-Michel Autoniel de s'inspirer de toutes ces montures précieuses qu'on pouvait voir dans les cabinets des princes européens au XVIe et au XVIIe siècle. Et donc il a soclé ainsi donc, un certain nombre d'objets de curiosité comme les cornes de rhinocéros, le bézoar, les œufs d'autruche. Donc tout ceci est présenté en fait sur le même plan et le visiteur donc, est confronté à des objets qu'il ne comprend pas nécessairement. L'information, bien sûr, est présente puisque donc, malgré tout, c'est un jeu sérieux. Et donc l'identification des œuvres est faite sur la fiche de salle, ce qui suppose en fait que le visiteur donc, se donne la peine de les voir et joue à fond ce jeu justement donc, du dépaysement. Voici donc une autre supercherie scientifique donc, qu'on a confiée à Juan von Kuberta qui a réuni de faux articles prouvant l'existence de la licorne ou encore des excréments de licorne donc, commandés à une artiste, en l'occurrence Sophie Lecomte. Alors, la subversion, la mise en cause du sérieux du musée peut être assez poussée, comme dans cette fausse collection d'apôts. Les apôts, ce sont donc ces petits objets qu'on utilise pour imiter le cri de l'animal et en fait pour pouvoir le capturer. Et Jean-Luc Bichot a réalisé ici donc toute une collection de faux apôts qui sont donc dans un petit cabinet inséré dans le parcours du musée. Avec une présentation qui est volontairement une sorte de citation des ambiances décoratives des musées un peu techniques. Et donc, là aussi, rien ne dit aux visiteurs qu'il s'agit d'une œuvre d'art contemporain. Alors, c'est à lui d'être vigilant et de se rendre compte qu'il y a des pommes d'arrosoir, un alambic, un clairon, et tout, des pieds de lampe, etc. Et que, bon, en fait, c'est assez peu probable d'arriver à capturer un oiseau avec ce type d'ustensile. Alors, c'est un risque, puisque en fait, beaucoup de visiteurs tombent dans le panneau et n'ont pas conscience qu'ils sont confrontés à des œuvres d'art contemporain. Donc, c'est un risque pour les visiteurs, c'est aussi un risque pour les artistes qui acceptent cette espèce d'hyper-intégration dans les collections, justement au risque de passer inaperçu. Alors, ça parfois, ça n'est pas sans difficulté, mais enfin, en général, les artistes sollicités se sont prêtés au jeu et ont accepté de rentrer justement dans cette espèce d'infiltration absolue. Comme ici, dans la salle des trophées, ce faux sanglier albinos de Nicolas Darro, qui est un animal qui suit des yeux le visiteur et qui en fait a une animation extrêmement discrète, mais qui est de nature finalement à rendre un potentiel émotionnel à l'ensemble de la collection des trophées disposée autour de lui. Il me manque une photo. Alors, on a poursuivi en fait ce travail d'insertion d'art contemporain et de mise en cause du musée à travers quelque chose qui fait vraiment partie de l'aspect institutionnel d'une collection publique, qui est la signalétique. Alors, dès l'origine, en fait, la signalétique avait été confiée en partie à des artistes qui avaient donc fait des œuvres originales, joué sur cette espèce de représentation de l'œuvre. Et on poursuit actuellement à travers ce qu'on appelle les fantômes d'artistes, puisque vous savez, quand on déplace une œuvre, soit pour restauration, soit pour un prêt à une exposition, il est d'usage de le signaler au public par un petit cartel qui précise à la fois le nom de l'œuvre et les motifs de son absence. Alors, plutôt que de miter le musée par ce type de cartel un peu fastidieux et souvent inesthétique, donc j'ai entrepris de demander à des artistes des fantômes, c'est-à-dire qu'en fait il leur est demandé de faire des œuvres de substitution qui autant que possible reprennent le même format que l'œuvre absente et qui va donc pendant la durée de son absence occuper l'emplacement. Donc là, vous retrouvez ici le cabinet où sont présentés les tableaux de Rubens et Bruegel, qui sont actuellement en restauration. Et c'est donc une œuvre de Marc Couturier, qui s'est ingénié à reprendre précisément le format des tableaux disparus. Ailleurs, donc un tableau de Chardin, qui est actuellement parti pour une exposition et qui a été remplacée par une œuvre exactement du même format, puisqu'en fait, il s'agit d'une photo grandeur nature de l'œuvre avec son cadre sur laquelle Anne Delporte, le cadre est au fond d'une boîte, Anne Delporte a placé une feuille d'or incitant le visiteur curieux à griffer la feuille pour faire apparaître la photo de l'œuvre qui est absente derrière. Alors bien sûr, en plus de ces fantômes d'artistes qui sont mis en place dans les salles, il y a un moyen de repérer et donner aux visiteurs, puisqu'on lui remet une feuille à l'entrée avec, résumant l'intégralité des œuvres qui sont comme ça, de manière provisoire, insérées dans les collections permanentes. Alors à travers cette opération de fantômes, ça me permet de poursuivre l'insertion de l'art contemporain et de constituer une sorte de collection virtuelle qui va petit à petit, au gré des déplacements, au gré des restaurations, doubler la collection existante.